Aujourd'hui à Tam Tam, générosité agissante du Canada contre la famine qui menace 20 millions de personnes en Afrique et au Yémen. Rendez-vous 2017, cabotage de grands voiliers dans 35 villes et 6 provinces canadiennes. Mais d'abord, les défis et les espoirs des parents immigrants qui voient grandir leurs enfants dans le nouveau pays. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Raymond Desmarteaux. Bienvenue à Tam Tam, si vous nous suivez présentement sur Facebook Live. Bonjour à tous. Les défis, les espoirs des parents immigrants qui voient grandir leurs enfants dans le nouveau pays. Les éléments de l'héritage culturel du pays d'origine qu'on accepte de laisser partir. À quel de ces éléments-là tient-on le plus? Comment est-ce qu'on regarde grandir notre deuxième génération? J'ai trois collègues qui ont accepté de venir participer à cette conversation. Maï Aboussab, qui est de la section arabe de Radio-Canada International. Bonjour Maï.
Bonjour Raymond et bonjour à tous nos amis facebookiens.
Rufo Valencia, qui est de la section latino-américaine.
Bonjour Raymond et bonjour à tous nos amis.
Et Levance Vance, qui lui est de la section anglaise.
Bonjour Raymond, bonjour mes amis.
Tous les trois. Maï, c'est du Liban. Mm-hmm. Rufo, vous êtes bolivien. Et le ventre d'origine, vous êtes arménien. Mmh. Puis bien sûr, il est sur son téléphone.
Ouais, écoute, je partage notre Facebook Live avec nos amis.
C'est ça, moi aussi, mais j'ai oublié mon téléphone sur mon bureau, mais bon.
parlez-moi de ce transit. Il y a des immigrations qui se font par choix, d'autres par besoin. Dans votre cas, c'est un pays que je décris souvent de fois en forme d'interrogation, ce pays qui est le Liban. Ce départ du Liban, de votre côté, c'était quoi?
J'aime cette interrogation qui se pose toujours d'ailleurs par rapport au Liban. C'était un choix parce que nous avons vécu toute la guerre qui s'est terminée en principe en 1990 et c'est en 1990 que le Canada a ouvert grand ses portes pour les Libanais qui voulaient émigrer au Canada. Nous avons présenté nos papiers à partir de Chypre, de l'ambassade du Canada à Chypre, parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là encore... l'ambassade canadienne était fermée, c'est ça. Et comme on était à Chypre, on a obtenu tout de suite nos visas, mon mari et mes deux enfants. Et
vos enfants sont nés au Liban, c'est ça?
Nos enfants sont nés au Liban, mais ils sont venus en très jeune âge, en bas âge, 6 et 4 ans ici.
Dans votre cas, Levan? L'Arménie?
L'Arménie, moi, je travaille comme journaliste en Arménie au début, c'est juste après l'effondrement de l'Union soviétique, cet épouinissement de système démocratique qui a duré pas très longtemps. à mon cas, j'ai été obligé de quitter l'Arménie.
Obligé? Vous le sentiez?
Au moment, oui, c'était pas très... ma femme était enceinte, ça peut-être a ajouté aussi à ce sentiment qu'il fallait la protéger plus que d'habitude. Et oui, on pensait qu'on part pour juste pour quelques mois et qu'on va revenir. Et ça fait 25 ans qu'on est ici.
Tout le monde pense ça au début.
Rufo, de votre côté, vous, de la Bolivie?
La Bolivie avait, à un moment donné, les records des coups d'État. Donc, j'ai vécu presque 20 ans de ma vie sur des différentes dictatures militaires. Puis, les moments... L'histoire de la famille. Et mon père avait été exilé et ma mère aussi avait été emprisonnée.
Oh là!
Et donc, puis les poids de cette expérience marquent les enfants. Puis, plus tard, c'était quand j'ai quitté la Bolivie, c'était aussi pour une année. C'était au moment où il y avait un état de siège, des leaders syndicaux emprisonnés. Je travaillais dans une banque à l'époque. J'avais fait aussi du journalisme. Puis, je suis parti pour une année. Et c'est l'année la plus longue de ma vie, parce qu'il dure plus de 30 ans.
Vos enfants sont nés ici?
Oui. Oui, oui, ils sont nés ici. J'aime bien dire que dans une Québec, une Provence... D'abord, je suis ici un endroit où je ne serais pas obligé à parler l'anglais. J'ai vécu dans ces parcours. J'ai vécu à Toronto, puis Ottawa. Puis je me rends compte que mon esprit et l'esprit de beaucoup de gens ont besoin d'un espace multilingue. Donc, c'est Québec, on trouve un Québec qui parle beaucoup. Je me suis bien dit les plaques des voitures, mais je ne sais pas si c'est bien très bien. Parce qu'il y a des choses qu'on laisse dans l'oubli.
Parce que notre plaque, la plaque est écrite « Je me souviens ».
C'est vrai que je me souviens.
Et donc, quand on parle des Québécois, des Québec des souches, un terme que je n'aime pas beaucoup, il faut se rappeler qu'avant qu'il y ait une souche, il y a un arbre. Puis avant qu'il ait de l'arbre, il faut qu'il y ait des fruits. Mm-hmm. Et donc, j'aime bien dire que j'ai donné 3 fruits à cette Provence.
C'est beau, ça.
C'est beau.
Vos enfants ont quel âge, respectivement? Levan?
25 et 18, maintenant.
Ben, 31 et 33.
Non, quand même.
Ben, oui,
il a fait ça à l'adolescence. Au fond, c'est le grand écart.
30, 10 et 8.
Et aujourd'hui, vous les regardez grandir. Vous les voyez changer. Moi aussi, j'ai une situation un peu parallèle à la vôtre, bien que je suis et de souches, et de feuilles, et d'arbres, et de fruits. Mais le fruit, moi, j'étais le chercher en Chine. Ma fille avait 9 mois quand elle est ce qu'on appelle une Québécoise pure soie, là, totalement. De ses racines, évidemment, à la maison, on ne parle pas mandarin, c'est le français et tout. Mais quand on parle qui arabe, qui arménien, qui espagnol à la maison, avec des relations personnelles et intimes, et qu'on voit nos enfants bouger dans un monde où on parle une autre langue à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit, Mike? Comment ça se constate?
Justement, Rufo a mentionné le français et le fait de venir du Liban, qui est un pays francophone, membre de la francophonie, c'est déjà un plus. C'est pourquoi maintenant, 27 ans plus tard, c'est peut-être la vision des choses est un peu différente. Mais lorsqu'on est arrivé il y a 27 ans, je ne sais pas si on pouvait parler dans notre cas d'intégration, parce qu'il y avait beaucoup de liens communs, beaucoup de choses en commun avec la société québécoise, avec le Québec. Parce que nous nous sommes établis à Montréal, nous n'avons pas fait Ottawa ou Toronto, nous sommes venus à Montréal. Donc il y avait déjà cette appartenance à la francophonie, et quand on dit francophonie, ce n'est pas juste la langue française. Au-delà de la langue, il y a une communion culturelle, il y a des valeurs communes, ce qui fait qu'on ne se sent pas, entre guillemets, étranger. Je parlerai plutôt d'une période d'adaptation. Il fallait s'adapter à une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, et l'adaptation dans les petites choses qui sont parfois un peu comiques maintenant qu'on y jette un regard, mais qui au début pour nous étaient assez importantes. Je te donne par exemple un exemple. Il fallait faire des formalités, appeler, parce que ça se fait au téléphone, et c'est déjà une facilité qu'on n'avait pas, par exemple, chez nous. Il fallait communiquer avec des agents de différents ministères, de différents paliers gouvernementaux. Et souvent, on ne parvenait pas à les comprendre, ils ne parvenaient pas à nous comprendre non plus. Donc, il y avait un peu l'obstacle du dialecte, si tu veux, pas de la langue, mais un peu du dialecte. Mm-hmm. Et c'était un peu difficile au début. Le temps de s'y habituer, c'est quelque chose. Il y a bien sûr le facteur du climat, qui, je pense, est toujours un facteur là. Mais pour la blague, je vous dis que on nous a dit que les enfants, parce que ils avaient 6 et 4 ans, à l'école en hiver, même s'il fait très froid, ils vont sortir pour la récréation dans la cour de l'école.
Et c'est ça qui s'est passé.
C'était un peu difficile.
Mais vous les avez vus changer, vos enfants. Avez-vous vu, votre femme est enceinte, donc les deux enfants, filles et garçons, c'est ici qu'ils sont nés?
Oui. Mm-hmm. Oui. Dans notre cas, c'est un peu différent parce que même si je parlais français quand je suis arrivé à Montréal, pour une raison que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, c'est l'anglais qui a pris l'avance. Et je fais mes études.
Sans compter que cet homme a aussi étudié en Arménie, donc il parle arménien, il parle russe, il a fait des études d'arabe également.
Oui. mais c'est ça. Alors, on s'est trouvé comme dans une situation où on était des allophones, plutôt anglophone que francophone. Dans une province francophone, j'ai commencé mes études, je faisais mes études en anglais à l'époque, et j'ai commencé le travail journalistique en anglais. Mais à la maison, c'était le loi très strict 101 arménien.
Ah oui?
Oui. Il faut comprendre que, comme je ne sais pas si peut-être c'était, si on était des immigrants et pas de réfugiés, peut-être la mentalité serait différente. Mais pour les premiers quelques ans, on attendait vraiment que les choses vont améliorer en Arménie, on va retourner. Mm-hmm. Et il fallait, à la maison, on parlait arménien pour que les enfants soient capables, c'est leur langue maternelle, mais aussi pour les raisons très pratiques, parce que mes parents, les parents de ma femme, ne parlent pas ni anglais ni français. Alors, au moins...
Pour parler à mamie, papy,
c'est ça. Il fallait avoir une facilité. Et aussi... l'anglais et français, ils sont comme nous sommes au Québec, les enfants ont fait leur éducation dans un système français, mais avec l'anglais très enrichi. Mm-hmm. Et ces deux langues, c'est maintenant entre eux, ils mélangent les deux, l'anglais et français. En plus, s'il faut faire quelque chose en cachette entre eux, mm-hmm. Ils parlent arménien ou russe.
Aussi. Et l'espagnol de votre côté?
D'abord, une petite précision sur la notion d'intégration, mm-hmm. parce que
oui.
Ça cause beaucoup de difficultés conceptuelles à l'heure actuelle au Québec, parce que on parle de l'intégration comme si la personne qui arrive désintégrée.
Oh.
Il n'arrive pas désintégré. Il arrive avec une vision du monde. Puis, même s'il n'a pas l'arrivée de ces gens-là, une Madelino qui débarque à Montréal
est perdue perdu. Autant. Voilà.
Exactement. Donc, et c'est là, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai resté à Verdun, il y avait un siège social des Madelino, de la même manière qu'on trouve sur l'avenue du Parc, les sièges sociaux des travailleurs grecs. Et quand je suis allé voir ces Madelino, il y avait cette nostalgie, il y avait cette mémoire. Alors,
Donc, chez les Gaspésiens, vous avez un centre gaspésien ici à Montréal aussi très très fort.
Oui, mais c'est donc, un instinct de rapprochement, je crois, que oui, ça arrive dans toutes les communautés.
Mais le problème est le suivant, c'est le problème de la notion de s'intégrer dans l'image qu'on s'intègre à une toute homogène, quand en fait, c'est plutôt une diversité, même à l'intérieur du
Québec. À l'intérieur même.
Donc, plus qu'intégrer, je suis plus d'accord avec l'idée d'un partage pluriculturel dans lequel... Et nous, on fait une popote ensemble, puis chacune amène ses oignons. De cette manière, on peut, disons, c'est plus juste.
Mm-hmm.
Car à la langue, les dommages qu'on trouve aujourd'hui, c'est que nous vivons aussi au moment où, à un moment donné, le Québec a perdu les pédales, il a perdu la route parce qu'il a tombé tellement, il a fétichisé la langue à tel point qu'on défend la langue, mais on a oublié depuis longtemps les valeurs. Tandis que les Canadiens anglais prennent plutôt les valeurs. Et rappelons-nous que les discours de l'entité, le Québec, est né dans les années 60 où le Québec regardait ce qui s'est passé en Algérie, en Afrique, à Cuba, les mouvements d'indépendance. Il y avait cette langue, la langue française, il était habité par une vision du monde différent, tout à fait différent, à laquelle, à la langue, l'espagnol, et j'ai la question de ma première femme était bolivienne, on parlait l'espagnol, tous les temps.
Mm-hmm.
Ma compagne, depuis des années, la mère de mes deux enfants, elle est québécoise des racines irlandaises et françaises. À la maison, elle parle l'espagnol couramment. Avec les enfants, on parle en français. Et il comprend l'espagnol si ça fait leur affaire. et s'ils se parlent en anglais entre elles, mais la langue, comment, il n'y a pas vraiment, et c'est notre question aussi, il n'y a pas, nous sommes de plus en plus dans une société où il n'y a pas une langue. Les gens sont, dès la naissance, sont bilingues, ou même trilingues. Donc, chez nous, c'est vraiment un mélange de langues. Chaque moment a une âme et cette âme demande la langue avec laquelle elle veut s'exprimer.
Et je suis d'accord, pardon, avec Ruffo lorsqu'il dit que les enfants répondent dans la langue de leur choix. C'est-à-dire, on peut leur poser la question en arabe, ils vont répondre en français. On peut leur poser en français, ils vont répondre en anglais. Mais c'est une richesse culturelle, linguistique aussi dans leur...
Est-ce que vos enfants ont un accent français ou anglais quand ils parlent arabe?
Franchement, non. Ils parlent l'arabe et ils prononcent toutes les lettres gutturales qui sont difficiles à prononcer, tout à fait comme nous. Mm. Mais ils parlent juste l'arabe dialectal. Parce que, comme tu le sais, Raymond, entre l'arabe dialectal et l'arabe standard, il y a une grande différence.
Ah, il y a un monde, c'est
donc,
ça.
Donc, s'ils vont écouter un bulletin de nouvelles en arabe standard, ils ne vont pratiquement rien comprendre. Ils n'écrivent pas, ils bredouillent quelques mots comme ça. Ils reconnaissent les lettres, mais pas les mots, parce que c'est difficile de lire des choses. Mais ils parlent quand même en arabe.
Un autre alphabet aussi, c'est l'alphabet arménien. Ouais. Est-ce que les enfants ont un accent quand ils parlent arménien?
Oui, mais c'est parce que l'arménien en Arménie a changé aussi. C'est ça ce qu'on oublie. Même moi, quand je reviens en Arménie maintenant, ça prend une demi-seconde pour un chauffeur de taxi de reconnaître que je suis pas d'Arménie, où j'ai passé longtemps à l'extérieur, parce que je parle une langue, on a préservé une langue qui existait avec les intonations, les tonalités qui existaient il y a 25 ans, et dans ces 25 ans, la langue a changé. C'est très subtil, mais les gens qui habitent là-bas reconnaissent ça immédiatement. Alors, mes enfants, ils ont un accent, pas parce qu'ils mal prononcent, mais parce qu'ils parlent l'arménien qu'on a appris à la maison, l'arménien qu'on a amené avec nous il y a 25 ans.
Vos enfants, maintenant, sont nord-américains. Tous. Totalement. Même que vous avez une fille qui vit aux États-Unis.
Oui.
De ces valeurs d'origine qui viennent, qui du clan, qui de la famille, qui de ce que vous voulez transmettre à vos enfants, avec les effets de cette vie nord-américaine, est-ce qu'il y a des points d'achoppement ou est-ce qu'il y a des points de rencontre, Rufo?
Les points de rencontre sont surtout avec les points de vue et la vision du monde des Premières Nations. Et nous avons, grand-père était Aymara, ma mère vient du côté Quechua. On a ses racines. Puis c'est ici que je me suis rendu compte à quel point la culture latino-américaine d'où je viens, surtout de la Bolivie, elle est vraiment la culture amérindienne a une telle emprise dans la vision du monde, la communauté, et ça se reflète même dans la vision syndicale, le travail syndical, etc. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de manger. Et c'est ça, par exemple, un point de divergence avec ma femme, parce que quand elle mange, elle laisse toujours un petit peu dans l'assiette. Et je raconte aux enfants que pour chaque grain de riz, il y a quelqu'un qui s'était levé tôt, il a arrosé, un travailleur qui a pris soin de cette plante, il l'a transportée, la personne au supermarché qui a travaillé, puis on va mettre ça à la poubelle. C'est pas juste avec les mondes. Donc, oui, je trouve personnellement cet point en commun. C'est pour ça que je me sens chez moi ici. Et la différence avec, c'est surtout vis-à-vis les États-Unis, c'est la politique, l'individualisme, cette vision de biggest, better, l'excès, la consommation aveugle. Et ce sont des points dans lesquels la ligne est clair et net, on ne partage pas cette vision du monde, non plus cette vision impériale et aveugle qui a les archives vis-à-vis les mondes en général. Mais le point en commun aussi avec le Canada et le Québec, c'est justement, malgré les vernissages modernes, le Québec, il y a encore beaucoup à se reconnaître à eux-mêmes par ses pratiques. Et c'est une société qui, malgré tous les défauts qu'on peut trouver, c'est une société riche, généreuse, à sa manière, et que les gens qui arrivent ici me disent, bon, si on essaie de rapprocher quelqu'un à Toronto ou à Calgary, ça va être toujours plutôt avec distance. Tandis qu'ici, il y a une spontanéité, il y a quelque chose qui te fait sentir chez toi.
Maï?
Oui, tout à fait, cette idée de spontanéité et d'ouverture à l'autre. C'est ce qu'on a appris ici, mais comme je te l'ai dit, il y avait beaucoup de valeurs communes entre nos sociétés au départ. Et les enfants ont pris le meilleur des deux valeurs. Et ce que je trouve de bon chez eux, et que peut-être nous, on n'a pas au même degré, c'est qu'ils ont acquis ici une certaine façon de voir ou de juger les choses avec plus d'objectivité. Alors que nous jugeons parfois avec nos sentiments, avec nos émotions, que ce soit des choses qui concernent le Liban ou qui concernent le Canada et le Québec. Donc cet esprit d'ouverture, vraiment, on l'a acquis et on l'a développé ici.
Et les ventes de votre côté?
C'est la même chose. Je pense que c'est l'esprit d'ouverture qui existe ici, qui peut-être n'existait pas en Arménie autant qu'ici, qui est une société très ancienne, mais aussi assez patriarchique, avec des certaines règles de jeu, surtout pour les relations entre les femmes et les hommes, les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Ce sont des choses qu'il fallait de peut-être laisser aller ici. Et les enfants n'ont pas ces notions du tout. Ce qu'on a essayé de garder, c'est l'hospitalité. C'est quand personne vient chez toi, mm-hmm. la première chose que tu fais, tu les offres quelque chose à manger, à boire. Mm-hmm. C'est les relations familiales que la famille, malgré tout, c'est le noyau de ton existence. Et c'est les valeurs, c'est les compromis qu'on a fait entre cette ouverture que je trouve exceptionnelle et très bonne, mais aussi de garder ces relations familiales, amitié.
Et en terminant,
tout à fait d'accord.
J'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, dans votre langue d'origine, de dire quelque chose à vos enfants.
Ah, pues a los niños, pues que hay que construir un Quebec más abierto institucionalmente, con más justicia y mayor representación de la diversidad de nuestra sociedad.
Bye.
خليكن مثل ما انتو خلي يضل عندكن نفس الانفتاح يلي عندكن ياه وخليكن محافظين على الروابط العائلية يلي كتير مهمة بالنتيجة بالنسبة لإلنا.
إلفان.
Yes, there's no short parts in the work. I got selected les unir. There's much I to pack on a list. Yeah, so we're in banner work. Menk chink karok des soratsnel Hayastanum.
Incroyable ce qu'on peut faire dans un sous-sol de Radio Canada.
J'aurais dû mettre mon Google Translator pour comprendre.
C'est ça, j'ai rien compris, et moi non plus, je crois.
Merci, Levant Sevens, merci, Maya Boussa, merci beaucoup, Rufo Valencia. C'est très gentil d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui. Si vous nous quittez sur Facebook Live, merci d'avoir été des nôtres. La suite des choses, on vous parlera des grands voiliers à Québec et aussi d'une générosité agissant du Canada contre la famine qui menace 20 millions de personnes en Afrique et au Yémen. Au revoir ou à tout de suite, bien sûr, c'est Tam Tam Canada. Une campagne de financement lancée par l'organisme Développement et Paix Caritas Canada a amassé 3 800 000 $, dont 2 500 000 de Canadiens, pour soutenir 20 millions de personnes menacées par la famine dans 3 pays d'Afrique et au Yémen. En entrevue avec Alice Chantal Chandam, Guy Desauniers, coordonnateur de l'aide humanitaire pour Développement et Paix Caritas Canada, a notamment souligné la sollicitude du peuple canadien. Voici quelques moments de cette conversation.
C'était au mois de mars dernier, on a lancé un appel à travers tout notre réseau. Un appel donc aux Canadiens et aux Canadiennes, d'abord pour les informer de la situation catastrophique qui régnait dans 3 pays d'Afrique, le Soudan du Sud, la Somalie et le Nigeria, et également au Yémen. Donc, c'est une situation catastrophique avec des besoins alimentaires très, très grands. On a lancé donc cet appel pour inviter les gens à donner à notre organisation pour nous permettre de venir en aide à cette population. Dans les 4 pays donc, que je viens de mentionner, on parle de 20 millions de personnes qui sont dans une situation humanitaire très grave. Donc, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'éléments essentiels comme des abris, des soins de santé. Donc 20 millions de personnes, vous imaginez, c'est absolument énorme comme nombre de personnes et la situation risque de plus de s'empirer. Donc c'est pour cette raison qu'on a lancé cet appel et cet appel-là nous a permis de récolter au total 3,8 millions de dollars pour répondre à la crise et nous, on trouvait ça vraiment très important de remercier justement les Canadiens et les Canadiennes d'avoir donné aussi généreusement. On travaille en partenariat avec le gouvernement canadien et dans le communiqué, on dit également qu'on remerciait le gouvernement canadien puisqu'il a lancé, c'était au mois de mars jusqu'au 30 juin, un fonds d'appariement, c'est-à-dire qu'il doublait chaque don qui était reçu par les organisations. Donc, des initiatives comme ça permettent vraiment de créer un momentum dans la population et de créer une espèce de synergie avec les groupes qui y travaillent. Et donc, ça nous a permis de récolter ces sommes-là importantes. On reçoit par ailleurs des fonds de l'assistance humanitaire internationale du gouvernement canadien. C'est pour des pays de la région qui sont touchés là, par ces crises et qui nous permettent de répondre là, à cette crise humanitaire.
Guy Desaulniers, le coordonnateur de l'aide humanitaire pour Développement et Paix Caritas Canada, au micro d'Alice Chantal Chandem. Ensuite, grands voiliers sont à Québec pour prendre part au rendez-vous 2017 qui se termine ces jours-ci. Ces navires de différentes catégories prennent une pause de la course Sail Training International pour faire du cabotage. Des arrêts dans 35 villes et 6 provinces du Canada. On souligne bien sûr le 150e de la Confédération. Maryse Jobin en discutait cette semaine avec l'instigateur de rendez-vous 2017, François Moreau.
Rendez-vous 2017 s'inscrit dans les fêtes du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, donc dans Canada 150. Et la course a débuté au mois d'avril dernier à Greenwich en Angleterre. Et le premier segment de la course se faisait entre Greenwich et Sines au Portugal. Par la suite, les grands voiliers ont traversé l'Atlantique par la route du sud, la route de Christophe Colomb, vers les Bermudes. Et à la station des Bermudes, des navires supplémentaires se sont ajoutés à la flotte et ils ont monté vers Boston pour un autre segment de course. Donc, on a eu Bermudes-Boston et le dernier segment de course qui vient de se terminer à la fin juin, c'était Boston, les eaux canadiennes. Et pendant près de 50 jours, les voiliers vont être en eaux canadiennes pour visiter 35 villes dans 6 provinces. Donc, il y a une partie de la flotte qui est partie des Grands Lacs, qui a visité certaines villes en montant vers Québec, en remontant le fleuve, et les voiliers sont arrivés directement d'Europe pour grossir la flotte. Et depuis le 1er juillet, donc, les voiliers, les grands voiliers, se dispersent à travers différentes villes dans les provinces maritimes ou au Québec pour annoncer le signal des festivités du 150e et le regroupement des grands voiliers à Québec cette semaine, où c'est le seul endroit au Canada où est-ce que l'ensemble de la flotte va être réunie. Les voiliers qui sont organisés par Sail Training International, c'est des courses. Donc, c'est comme des courses de Formule 1. Il y a différentes catégories de grands voiliers, les classes A, B, C et D. Donc, les voiliers s'inscrivent dans une course. Et lorsque les trajets que je vous ai définis entre Boston, les eaux canadiennes, et le dernier segment, c'est entre le Canada, donc Halifax, où va se faire le début de la course, vers le Havre en France, ça, c'est des segments de course. Tandis qu'au Canada, dans le golfe du Saint-Laurent, dans le fleuve Saint-Laurent ou dans les Grands Lacs, on parle plus de cabotage parce que les voiliers ne sont pas en position de course. Ils font du cabotage d'une ville à l'autre. Alors les gens, les apprentis matelots peuvent embarquer à bord et faire une section de cabotage entre, comme exemple, Gaspé, Québec, ou Charlottetown, Saguenay, ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou Hamilton, Québec. Il y a des voiliers qui offraient ça également. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que je suis un passionné de grands voiliers. Des coups de cœur, oui, j'en ai des personnels, mais j'en ai plusieurs. J'en ai pas qu'un seul coup de cœur. C'est sûr qu'il y a des très, très grands voiliers dont l'élégance est incroyable, comme l'Esmeralda du Chili, ou encore une réplique d'un grand voilier gallois, espagnol, qui est présent, qui est une réplique impeccable et qui est un bateau musée, le El Galeón, qui est un bâtiment qui a participé au tournage du film Pirates des Caraïbes. Alors, vous voyez, ça va dans toutes les directions, mais sinon, oui, il y a des beaux coups de cœur. Il y a le Blue Nose 2 qui est présent. On ne peut pas ne pas être touché par le Blue Nose 2. Il est plus petit que bien d'autres, mais il a toute son élégance. Alors oui, il y a des coups de cœur.
François Moreau, l'instigateur de Rendez-vous 2017, au micro de Maryse Jobin. Enfin, selon Hassan Guillet, le terrorisme et la violence n'ont pas de religion. Qu'il y ait des actes de violence perpétrés sur terre ou non de certaines fois, il les dénonce, et ce, avec véhémence. Il me disait en entrevue cette semaine, on se doit de continuer à être une majorité, mais cesser d'être une majorité silencieuse. On se doit d'être de plus en plus éloquent et présent pour dire non à la violence, non à la discrimination, non à l'islamophobie. En terminant ce tam-tam, je vous propose un retour sur cette conversation avec un grand humaniste, l'imam Hassan Guillet, dans la foulée du référendum sur l'installation ou non d'un cimetière musulman Saint-Apollinaire, près de Québec, et sur le message haineux reçu par la Poste au Centre islamique de Québec.
Est-ce qu'on revient à la case des départs ou non? Je ne pense pas. La seule chose, après les événements tragiques du mois de janvier, il y a eu toute une vague de solidarité et de sympathie, et on était très fiers de ça, on était très contents. Même, je l'ai dit, sur la colline parlementaire, quand j'étais invité pour parler pour le 150e anniversaire, j'ai dit que quand le Canada tout entier s'est dressé et a crié haut et fort non à la violence, non au racisme, quand les Canadiens se sont transformés en chaîne humaine à travers les pays pour protéger les mosquées, et quand le cœur de tous les Canadiens se sont transformés en mosquées, nous avons réalisé que nous sommes une seule famille malgré toutes nos différences et que les balles ne vont pas réussir à nous diviser. Cette société est la nôtre, puis on va la défendre, on va bâtir cette société ensemble. On appartient à cette terre-là. Nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous avons les mêmes droits comme tout le monde et nous avons les mêmes devoirs comme tout le monde. Pas plus, pas moins. Donc, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des passagers ici et c'est pour ça on essaye d'avoir notre propre cimetière ici, parce que comme nous vivons sur la face de cette terre, on aimerait pouvoir se faire enterrer dans cette terre aussi. Il y a quelques voix qui nous accusent de ne pas vouloir s'intégrer. Je me demande quel niveau d'intégration plus que de vouloir se faire enterrer dans la terre où on vit. Tous les Canadiens et tous les Québécois de toutes les religions sont nos confrères, sont nos partenaires dans la vie. Et il faut qu'on travaille ensemble. Donc, des incidents de parcours, comme celui de Saint-Apollinaire, comme celui du col Hainu qu'on a reçu vendredi, ne doivent pas nous arrêter d'essayer de continuer à travailler ensemble. Je viens d'une petite localité qui s'appelle Saint-Rémy, sur la rive sud de Montréal. Et il y a un tombeau d'une personnalité très connue, qui est le père de notre premier ministre, Justin Trudeau. Donc, Pierre-Éliott Trudeau et ses ancêtres sont enterrés à Saint-Rémy, dans un cimetière catholique, exclusivement catholique. Ça ne m'a jamais dérangé, ça n'a jamais dérangé personne. Des fois, je m'en vais dans ces cimetières-là, me recueillir au tombeau de Pierre-Éliott Trudeau, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand je suis venu au Canada, c'est lui qui était le premier ministre du Canada. Je n'ai jamais trouvé que c'est aberrant ou c'est choquant d'avoir un cimetière catholique. Quand je vais faire ma prière, je vais faire ma prière dans une mosquée. Quand un catholique veut faire sa prière, il le fait dans une église. Quand un juif veut faire sa prière, il le fait dans une synagogue. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'intégrer l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'un l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vivre l'un avec l'autre. Mais il y a des spécificités, des convictions et des religions. Puis il faut qu'on respecte ça. Et d'ailleurs, la Charte canadienne et québécoise respecte ça. Et surtout, les droits de la propriété privée. Comme j'ai le droit d'acheter une maison, j'ai le droit d'acheter un terrain pour faire un cimetière. Là, la question qui se pose, c'est quoi? C'est les zonages. Il faut que ça respecte les lois environnementales, les règlements de l'environnement. Je suis d'accord avec ça. Et ce cimetière-là, ce projet-là, ce territoire-là, respecter tout ça. Et c'est ça l'ironie de la démocratie. Il y a seulement deux personnes qui ont réussi à tuer le projet. Ou au moins bloquer le projet pour un moment. Les tuer ou non, on va voir. Pourquoi on dit deux? Parce que des gens peuvent me corriger, dire non, c'est 19. Non, c'est 2. Parce qu'il y avait 19 contre et 16 pour. Il y avait seulement 2 personnes sur les 19. C'est ça l'ironie de la démocratie. Là aussi, une autre chose, c'est que pourquoi seulement si peu? Parce que seulement les gens, dans l'ancienne loi qui était maintenant changée, s'il y a un référendum, il faut que seulement les gens qui habitent dans les secteurs. Donc, quand on fait un cimetière, on ne les fait pas au centre-ville ou à une place où c'est très densément peuplé. Donc, on le fait dans des places isolées. Donc, ce terrain-là est entre les chemins de fer et l'autoroute 20. À une place très loin, ça devait déranger personne. Et d'ailleurs, ça ne dérangeait personne parce qu'il était zoné pour un cimetière. Mais maintenant, aussitôt qu'on a dit un cimetière musulman, là, c'était l'enfer. Il faut qu'on appelle un chat un chat. C'est le fait d'être musulman qui dérange, c'est pas le fait d'avoir un cimetière. Ça, c'est une chose. Une autre chose, les gens qui disent « Ah oui, mais les musulmans font peur, puis les Québécois se sont menacés », c'est pas vrai. La preuve, c'est que 62 personnes qui avaient le droit d'aller voter. Il y a seulement 49 qui sont allés enregistrer leur nom. Sur les 49, il y a seulement 36 qui ont voté. Un vote qui était annulé, 19 contre et 16 pour. Si les gens se sont menacés à ce point-là, ils auraient pu se déplacer pour voter. Si moi je vois qu'il y a le feu ou le danger du feu de ma maison, je cours tout de suite pour l'éteindre. Donc quand ce sont les moindres dangers, on agit. Si les Québécois ou les résidents de Saint-Apollinaire sentaient les moindres dangers, ils seraient venus voter en masse. Juste les manques d'intérêt, les manques d'implication, ça prouve jusqu'à quel point les gens ne se sont pas menacés par les musulmans. Donc qu'on arrête cette campagne de peur. Il y avait certaines personnes qui étaient manipulées, certaines personnes qui étaient manipulateurs. Ils ont réussi à manipuler un certain nombre très minime, mais la majorité des Québécois, la majorité des Canadiens n'ont pas peur, à ma connaissance, de l'islam, n'ont pas peur des musulmans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'islamophobie. Il y a de l'islamophobie. Il faut qu'on travaille contre l'islamophobie. Et je passe mon temps à cogner sur les portes des politiciens, de nos chefs politiques, dire « Hey, le danger est là ». Faisons quelque chose contre l'islamophobie. Et ce n'est pas juste les musulmans qui sont menacés par l'islamophobie, c'est la société tout entière.
Voilà, c'est là-dessus que s'achève ce tam-tam aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Louis-Pascal Loriot à la Régie Technique. Ici Raymond Desmarteaux. Au revoir. À bientôt.